Bonjour à tous, bienvenue à votre Cinébrunch. Vous êtes en compagnie, comme chaque semaine, de Jim Boulay, de Mélina Lopez-Nadeau et de François Genet. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Et cette semaine, les amis, on a un programme assez intéressant.
Oui, tout à fait.
Déjà, on va accueillir Jean-François Vachon et Jean-Sébastien Dutille qui sont avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Salut.
Ils sont avec nous. Ils vont nous parler de leur série documentaire Monsanto qui va être diffusée à la Maison du cinéma cette semaine. Et également, on va essayer de comprendre un peu comment ce projet-là est né, comment ça s'est produit. On va parler de tout ça dans quelques minutes. Et sinon, un peu plus tard dans l'émission, en deuxième demi-heure, on va avoir la chance de parler, de critiquer deux films, en fait. Le film Julik,
oui,
que Mina t'a été voir, et le film Parasite ou Parasite que j'ai vu, donc film sud-coréen, voilà.
Deux
films quand même importants, donc on va avoir la chance d'en parler un peu plus tard dans l'émission.
Moi encore cette semaine, j'ai vu aucun film, et voilà. J'ai essayé de dormir encore, ça n'a pas marché.
Alors justement, il y a un poste qui s'ouvre à Cinébrunch, si vous voulez remplacer François, ça sera possible dans les prochains mois.
Non, je vais me reprendre dans les prochaines semaines, vous allez voir, je vais être en feu.
Donc la semaine prochaine, tu fais tous les films.
Ça va juste être moi, vous allez être tanné d'entendre ma voix, vous allez faire mon doux, c'est quoi, c'est qui ce gars-là?
Oui, bon en tout cas.
C'est moi.
Bref, donc voilà, accueillons tout de suite. Ensuite, nos nouveaux, on peut pas dire collaborateurs, c'est la première fois qu'on se rencontre vraiment dans le monde médiatique, mais on s'est croisés quelques fois au centre-ville, parce que visiblement, vous êtes des gens du centre-ville, et ça tombe bien parce que votre série documentaire traite et a objet de parler du centre-ville de Sherbrooke. Donc voilà, bonjour Jean-François et Jean-Sébastien, bienvenue.
Salut.
À Cinébrunch.
Merci de nous recevoir ici, c'est super.
C'est un plaisir, on bat un record, on n'a jamais eu autant de micros en même temps à l'émission, donc je vous épargne la logistique qu'il y a derrière. Mais alors voilà, c'est ça en fait. Peut-être commencer par nous parler un peu de c'est quoi Monsanto, c'est quoi votre projet en réalité?
La série Monsanto, c'est une série de 6 épisodes de 20 à 22 minutes chacun qui, comme tu disais tantôt, parle du centre-ville de Sherbrooke d'une façon, on aurait pu le faire de plein de façons. Nous, on a décidé de donner la parole aux gens qui habitent le centre-ville, aux commerçants. On a décidé de donner la parole aux élus aussi qu'on a dans la ville. Donc, aux gens qui s'impliquent quand même au centre-ville. Et il y a différentes thématiques. Chaque épisode est diffusé divisé en thématiques, comme on a un épisode qui est un peu plus l'introduction du centre-ville. On va voir la population du centre-ville, on va voir les commerçants. Et ensuite de ça, il y a un épisode qui parle un peu plus des espaces de socialisation, les cafés, les microbrasseries. On a un autre épisode qui traite plus de la restauration. Mm-hmm. On a un épisode entier sur les organismes communautaires du centre-ville. Mm-hmm. Ça, c'était vraiment important pour,
Puis il y en a tellement.
Mm-hmm. C'est ça. Et un autre épisode sur la culture, donc les hauts et les plus petits lieux, les plus grands et les plus petits lieux de diffusion culturelle. Et le dernier épisode traite de la revitalisation.
Le futur.
vers où on s'en va, justement. Ouais. Le nom de l'épisode, c'est vers un nouveau centre-ville. Ah. Donc, c'est un peu un questionnement sur comment on en est arrivé. Je pense que c'est... Hein, Jean-François, tu me diras si je me trompe, mais je pense que c'est l'épisode qui a le plus de photos qui vient de la société d'histoire, vraiment.
C'est l'épisode... En fait, tous les épisodes, sauf un, ont des éléments historiques, en fait. Mm-hmm. Des vidéos d'archives qu'on a trouvées dans les archives de Radio-Canada, des photos, comme qu'il dit, de la société d'histoire et aussi des articles de la Tribune avec des photos et tout ça, des grands titres. Et vraiment, tout ça, tous les épisodes, comme Jean-Sébastien a dit les thèmes, comme par exemple, on a les vieux restaurants du centre-ville, comme le Luxor, certains lieux de socialisation, comme le Moulin Rouge qu'il y avait, le Flamingo, vraiment plusieurs endroits que certains Sherbrookois ont connus, ils peuvent se souvenir. Donc, pour les gens qui ont connu le centre-ville depuis 50 ans et même plus,
ils vont reconnaître des vieilles affaires.
Ils vont reconnaître des choses. On va peut-être toucher une petite fibre nostalgique là. Et le dernier épisode, oui, c'est lui qui a le plus d'éléments historiques parce qu'on passe vraiment en revue toute l'histoire du centre-ville, on part même du début, quasiment du début de l'histoire de Sherbrooke pour remonter jusqu'à aujourd'hui, pour parler un petit peu des grandes étapes, c'est parce que au début, le centre-ville de Sherbrooke, c'était pas mal la ville de Sherbrooke. Et là, tranquillement, bon, avec l'expansion urbaine et tout ça, l'avènement des centres d'achat, bon, le centre-ville a décliné. Mmh. Et là, on connaît un certain renouveau, renouveau qui est relatif, parce qu'encore une fois, on n'est pas encore dans, on n'est plus dans l'âge d'or du centre-ville, si on veut. Il y a comme un renouveau. Et un début de la série, c'est de... la série a quand même un angle positif, on tient à le dire. Ouais. Et c'est de ramener un peu les gens, de communiquer l'engouement que nous, on a, que d'autres gens ont pour ce centre-ville-là, pour stimuler les gens à venir faire un tour, entre autres.
Ah, mais c'est super. C'est indiscret de vous demander comment vous vous êtes rencontrés, parce que c'est un peu particulier de faire ça comme ça.
Non.
Tinder, non?
Ça va avoir
ça aurait pu.
Tinder documentaire, là, c'est pour faire des matchs.
Ben, on s'est rencontrés dans le contexte où je faisais une autre série avec la même chaîne qui nous a produit, nous a diffusé avec Monsanto. Ça s'appelait L'assiette végétalienne. Donc, j'ai fait ça. J'avais commencé en 2017. J'ai terminé début 2018. Et un des... Ben, ça traitait, comme le titre le dit, un peu de la restauration végétalienne à Sherbrooke. Et Jean-François était propriétaire du Café Singing Goat.
Ben oui, c'est bien vrai.
Et donc, à un moment donné, je pense que c'est l'épisode 3, où est-ce que là, je me suis rendu chez vous, puis j'ai passé Catherine puis toi en entrevue. Ouais. Et là,
la bouffe était tellement bonne que...
ça m'a convaincu de
c'est
bon une amitié.
C'est pas moi, c'est ma blonde.
Mais c'est vrai que c'est bon. Puis... fait que là, on parle, on fait l'entrevue et tout ça, puis il y a comme un peu une suite, là, on se dit, on a peut-être des projets, tu sais, qu'on aurait envie de collaborer ensemble, et ça a donné suite à d'autres rencontres, et on avait commencé à faire des tournages avec un projet, c'était à Trois-Rivières, c'est ça, la société?
Ouais, l'office d'habitation, municipale d'habitation de Trois-Rivières.
Okay. Ouais. C'est là que le début...
C'est là qu'on a fait nos premiers tournages ensemble. Là, on s'est dit, ça passe ou ça casse? Non, c'est pas vrai.
Ça a passé un peu.
Assez pour qu'on décide de se rencontrer à un moment donné quand j'ai reçu un courriel de Fib TV1 qui me disait, t'as-tu d'autres idées? On aurait de la place pour que tu fasses autre chose pour Sherbrooke. Et en parlant avec Jean-François, on s'est dit, hey, on pourrait faire de quoi sur le centre-ville de Sherbrooke.
Même l'idée venait de vous, là.
Oh, oui, clairement, c'est vraiment tout de A à Z venait de nous là-dedans. Tu sais, Jean-François avait déjà, à l'époque, tu faisais et tu fais encore des portraits des commerçants.
Moi, un petit peu, mais ouais, j'en fais. Mm-hmm.
Et puis moi, j'avais dans la tête depuis deux, trois ans, là, avec un groupe d'amis, d'aller rencontrer un peu style documentaire, là, mais pour le web, aller faire des vidéos avec les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs du centre-ville et un peu plus haut dans la ville aussi. Et c'était pour justement montrer c'était qui les beaux petits humains qui bâtissent notre place. Puis c'est vraiment dans cette fibre-là que finalement on s'est dit on a tellement de choses en commun. Puis ça n'a pas pris de temps qu'on a travaillé ensemble. Puis qu'on s'est dit aïe, on est tellement complémentaires. Là, c'est fou. Là. Fait qu'à ce moment-là, ça a été de soi que Monsanto allait naître et allait.
Un projet très ambitieux.
Mais comment vous faites votre collaboration? Parce que Jean-François, toi, t'es historien.
Ouais, ouais.
C'est ça. Puis toi, Jean-Sébastien, t'es réalisateur. Donc, comment vous collaborez ensemble? Comment ça se déroule?
Ben, dans le fond, comme que Jean-Sébastien dit, on est très complémentaires. Dans la série, en fait, c'est sûr, on a pensé au concept de la série à deux. On a vraiment fait un petit peu comment on va diviser les épisodes. On a fait ça à deux, penser un peu les thématiques qu'on va aborder. Vraiment, les lignes directrices, on les a pensées ensemble. Moi, je me suis occupé un peu de faire les entrevues, vraiment, avec les gens, là, qu'on posait les questions. Tout ça, toujours en collaboration, mais c'est vraiment écrire les questions. C'est moi qui interviewais les personnes et tout ça. Après ça, dans le fond, Jean-Sébastien lui s'occupait de tout ce qui était l'image, dans le fond, toute tournée, le montage et tout ça. Et moi, je m'occupais un peu de la sélection des propos, là, c'est-à-dire tout ce que les gens ont dit, là, les heures d'entrevue qu'on a enregistrées. Moi, j'écoutais tout ça, là, puis je découpais ça, puis les heures qui sont, on met ça là, si on coupe
de trouver,
ça.
Essayer de trouver la crème.
C'est ça, là, je filtrais le bon grain de l'Iveret.
Wow!
Parce que t'es là, tu dis affaires de même.
Écoute!
Mais avez-vous une idée du nombre d'heures d'entrevue pour le fun que vous avez fait au début?
Quoi, 35 entrevues à peu
près? Près d'une heure, au moins 35 heures d'entrevue, sinon
puis peut-être un 40 compteur si on ajoute une coupe d'heure pour les shots qu'on s'est promenés plus justement reality, si je peux me permettre, mm-hmm. si on ouais. se promenait caméra à l'épaule.
Mm-hmm. Pendant ça, qu'il y avait des événements, pop, pendant qu'il se passait des choses.
Oui, c'est ça exactement. Mm-hmm. Fait qu'on a une quarantaine d'heures à peu près d'entrevues. Mm-hmm. Mais c'est pour ça que, tu sais, moi, auparavant, je l'avais fait pour d'autres projets, tu sais, vraiment... Je faisais ça, puis je tournais, puis je faisais le montage, puis là, c'était comme, hey, je peux pas, on peut pas tout faire un ou l'autre, là. C'était comme,
c'est
Jean-François, ben, si je me trompe pas, je pense que t'as un bagage quand même avec ton parcours d'avoir fait beaucoup de sélections comme ça, de rédiger, puis.
Ça fait un bon plus que 10 ans là, que je travaille. Ben, c'est en histoire, mais c'est en recherche aussi. Fait que j'ai l'habitude de classer un paquet de données, un paquet d'entrevues et de livres, de lectures et de faire du sens avec tout ça. Fait que je me suis dit, bah, pourquoi pas faire ça dans une série documentaire. Ben, oui. C'est des projets que ça faisait longtemps que je voulais faire, en fait. Et Jean-Sébastien est arrivé au bon moment au Café Singing Gold quand je l'ai rencontré, parce que moi, ça faisait longtemps que je nourrissais l'idée de faire des documentaires et vraiment, comme la collaboration est arrivée au bon moment, parce que c'était un souhait que j'avais. Puis pour faire simple, vraiment, tu sais, moi, je me suis occupé, ben, c'est ça, justement, la scénarisation, la recherche aussi, toute la recherche historique, la recherche d'archives et tout ça. Mm-hmm. Puis Jean-Sébastien, tout l'aspect réalisation, montage, tout ça, pour faire ça simple.
Toujours dans un esprit de collaborer, tu sais, quand il arrivait avec des photos ou des idées d'archives, tu sais, on visionnait ça à deux, il m'envoyait ça, on se disait tout le temps, un et l'autre, qu'est-ce qu'on pensait de ça. Après ça... T'sais, au niveau du montage, au niveau de la sélection du contenu aussi, t'sais, c'est pas parce qu'on arrivait mettons, j'arrivais à JF avec quelque chose ou il m'arrivait avec quelque chose qu'on se disait c'est cané, c'est fini, t'sais, c'était tout le temps organique.
Négociation aussi, j'imagine.
Des dizaines, mais des dizaines d'heures en montage ensemble même, t'sais, à visionner ça ensemble, voir... T'sais, on faisait notre job un peu chacun de notre bord à un certain moment, mais après ça, quand ça arrive sur la table de montage, là, c'est quoi le feeling global de ça?
Puis j'imagine aussi que comme c'est une série documentaire et non un documentaire, c'est différent aussi parce que t'as 6 épisodes que tu dois combler, c'est séparé en chapitres, en thèmes, mais tu peux pas décider de dire ben, le premier thème va être 30 minutes puis l'autre va être 10. Il y a comme une structure qu'on doit respecter. Ça, est-ce que c'était plus difficile ou est-ce que c'était plus simple parce que t'avais déjà une structure qui était là? C'est quoi la différence entre les deux?
Ben, la structure, ça l'a vraiment été aidant. Là, au début, on avait vraiment une idée. C'était pas vraiment... Le Mont-Centro d'aujourd'hui n'était pas le Mont-Centro au début. Là. Au début, on pensait même faire juste quasiment juste des portraits de commerçants, des portraits de commerce avec l'histoire du commerce et tout ça. Là, on a vraiment élargi tout ça. Mais non, la structure, c'était vraiment entendu dessus. Ça l'a aidé vraiment à orienter nos choix. Puis, tu sais, tantôt, tu disais compromis, mais moi, ce que je me rappelle souvent des heures qu'on a passées devant la table des montages à la fin, c'est qu'on y allait vraiment... au feeling, mais au feeling dans le sens feeling professionnel.
Feeling
là,
organisé.
C'est pas feeling pour le fun. Là. C'est que, tu sais, on regardait ça, puis là, on regardait, OK, il me semble qu'il y a une longueur là, ah, me semble là, ça va trop vite, autant au niveau de l'image qu'au niveau du contenu, puis on essayait vraiment de voir si, ça fonctionnait pas, ben là, on essayait de voir pourquoi tu le sens pas, toi, puis pourquoi moi je le sens pas, puis tu sais, des fois, je me dis tout le temps que ça peut arriver que je sois complètement dans le champ, tu sais, puis ça peut y arriver, Lucie, qu'il soit complètement dans le champ aussi, mais tu sais, on essayait, non, jamais. On essayait toujours de voir ce qui fonctionnait pas quand on sentait quelque chose, puis vraiment pour amener ça le plus loin possible, puis on était quand même assez, je pense, les deux exigeants, là,
Très exigeants, puis... Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est à quel point qu'on était toujours sa même longueur d'onde. C'est...
Vous êtes jamais pogné là, pendant le... Vous n'êtes jamais disputé. De tension pendant le...
Jamais.
Fait que super belle communication, ça veut dire.
Mais à part, là, il y avait comme un bout de fin, tu sais. Mais c'était pas une dispute. C'était comme... Ah, ça, moi, je le sens que ça finirait de même. Puis...
Une fois, je me rappelle. Mais c'est la fois qu'on...
C'était pas une dispute. Ouais. C'était juste comme...
Vous aviez chacun votre vision, là. Puis là, on avait comme deux réalisateurs qui veulent
c'est parce que tu arrives à la fin, puis en même temps c'est le dernier épisode, il y avait quelque chose de gros là-dedans, là, comme de ça faisait longtemps qu'on travaillait ensemble, ça faisait longtemps que puis c'est l'épisode de fin, c'est drôle quand même que c'est la fois qu'on s'est regardé, puis là on s'est dit, hey, attends, je sais que c'est c'est propre à moi là, ce que je pense, mais telle affaire. Puis là, Jeff, mais c'est telle chose. Puis là, finalement, ben on s'est dit, ok, on va prendre un recul là-dessus.
Puis finalement, si vous avez décidé quoi? C'est qui a gagné?
Je pense que c'est poche à dire. Je pense que c'est moi qui ai gagné.
Juste sur les derniers mots de la fin, mais en tout cas, j'ai gagné à d'autres places. On a gagné partout.
Vie de compromis. En tout cas, ça a dû prendre une discipline d'enfer parce que c'était produit donc par Bell TV 1 Fib, c'est ça?
Ouais.
Et ça veut dire qu'eux, ils avaient quand même probablement une commande par rapport à ça. Vous aviez fait une proposition. Eux, on l'ont accepté et donc évidemment ils devaient regarder de temps en temps où vous en étiez, puis est-ce qu'il y avait un suivi?
On envoyait un épisode quand il était fini, c'est-à-dire que eux ils aimaient quand même avoir une espèce de rough là, si on peut dire, mm-hmm. là, de juste comme les entrevues avec, avec des fonds noirs, puis un peu à l'écriture qu'est-ce qu'il va avoir, puis comment on pensait s'inspirer. Puis ils nous disaient leurs commentaires, mais je pense qu'ils préféraient vraiment recevoir un épisode. Au pire qu'il soit pas, le son est pas, il n'y a pas eu de mixage de son encore de fait, il n'y a pas eu toutes les chansons qui sont là, mais puis la coloration était peut-être pas faite, mais au moins ça leur donnait une idée de c'était quoi qu'on avait mis comme image de stock shot par-dessus les entrevues, nos transitions, puis c'était ça qui était important pour eux, de voir ça a-tu du sens, tu sais. Mais c'est quand même, tu sais, Fib TV1, il développe à Sherbrooke, il développe à Trois-Rivières, il développe à Québec, dans différentes villes, il développe pas à Montréal, tu sais, ils ont fermé Montréal quand même depuis je pense 2 ans. Le but de la Fib TV1, c'est de promouvoir ce qui se fait dans les régions, puis de donner au moins un minimum de ressources, tu sais, aux gens qui commencent, tu sais, puis qui ont envie de pousser un peu là-dedans, puis d'essayer le fait de se retrouver, de faire quelque chose, puis que ça se retrouve à la télé aussi, tu sais, c'est quand même vraiment une belle opportunité.
Mais je suis content de voir que ça soit possible pour deux jeunes réalisateurs, historiens, de comme ça, partir un projet de rien et puis d'être diffusé comme ça. Votre série documentaire va être exceptionnellement projetée en dehors de la télévision, va être projetée à la Maison du cinéma cette semaine. Et c'est quoi le contexte de ça? Vous vouliez faire plaisir aux gens du centre-ville? Est-ce que c'est ça le but?
Mon centro, c'est bien sûr le projet de moi puis Jean-Sébastien, mais c'est un projet aussi qui est collaboratif. T'sais, nous, on voulait vraiment faire ça en collaboration avec les gens du centre-ville, autant pour les entrevues que aussi avec les organismes qui sont impliqués au centre-ville, comme Commerce Sherbrooke, l'Association des gens d'affaires du centre-ville. On a collaboré avec eux. Destination Sherbrooke aussi nous ont aidés financièrement. Là, c'est des petits montants. Là, comparé à TV1, c'est des petits montants. Mais on voulait, avec cette soirée de projection-là, parce que sur TV1, c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Il faut vraiment être abonné à Bell Télé pour avoir accès. Et bon, c'est pas tout le monde maintenant qui ont le câble chez eux, si je peux dire ça comme ça. Et certaines personnes n'ont pas vu l'émission ou ils n'ont pas l'opportunité de la voir. Puis des fois, c'est des gens qui ont participé. Fait que nous, on voulait vraiment donner une récompense à ces gens-là. On donne vraiment beaucoup de billets gratuits. Là. Il y a au moins plus... quand même une bonne dizaine de billets gratuits qu'on donne pour remercier les gens qui étaient en entrevue, les organismes qui nous ont aidés, tout ça. Et en même temps, on veut faire de cet événement-là un événement un peu de réseautage, un événement symbolique pour vraiment dire « OK, gars, on a fait une série sur le centre-ville, venez voir, venez célébrer ça avec nous, venez vous jaser, venez parler du centre-ville, venez parler projet, tout ça. » On commence à 18h30, mais la série ne sera pas projetée avant 7h, et ça, c'est vraiment pour que les gens puissent socialiser ensemble. Ouais. Donc, c'est ça. On a fait ça pour ça. Puis au début, on pensait « Ah, on va faire ça au capé, là, on va mettre une toile, là, on commence à se parler. » Là, si on calcule tout ça, je pense que ça ne rentrera pas dans le capé du F. OK, on pensait à nos places. Puis là, finalement, on était vers la Maison du cinéma.
Ce qui est bien, ça vous donne quand même un écran intéressant puis son intéressant.
On était là l'autre fois pour faire les tests. Puis tu sais, c'est quand même moi j'ai trouvé, je sais pas pour toi JF, mais le feeling est quand même, c'est quand même vraiment intéressant.
Et votre
quand même
bébé spécial, qui s'en va dans un vrai écran de cinéma.
L'écran, c'est avec le projecteur et tout ça, il y a le projecteur, je veux dire, il y a un feeling là, qui est vraiment vraiment super là. C'est pas c'est arrivé que quand la capsule était ouverte là, j'ai diffusé des trucs là, mais ou au tremplin mettons, tu sais, aussi là il y a un projecteur, mais quand même la Maison du cinéma,
une magie,
c'est quelque chose.
Je comprends. Mais moi je vous propose, si vous voulez bien, d'écouter peut-être la bande-annonce un extrait de votre série documentaire. On va pouvoir donc se mettre dans le bain, puis ça va peut-être donner aux gens l'envie d'aller voir ce que vous avez fait.
Depuis quelques années, les centres-villes reprennent vie au Québec. Plusieurs citoyens, commerçants et élus souhaiteraient dynamiser le cœur historique de leur ville. Ce mouvement et ce regain d'amour touchent aussi Sherbrooke. Aujourd'hui, le centre-ville a même un nom, le Centro. 6 lettres qui symbolisent toute la beauté et l'originalité d'un espace qui renaît avec audace. Inspiré par cet élan, on a voulu s'y plonger et donner la parole à ceux qui animent, rêvent et se souviennent de leur centre-ville.
Et donc, c'était un extrait de la série documentaire « Mon Centro » de Jean-Sébastien Dutil et de Jean-François Vachon qui sera présenté donc, au complet. Hein, les 6 épisodes vont être présentés.
Les 6 épisodes le 21 novembre, 18h30 à la Maison du cinéma.
Donc, jeudi. Et c'est ça, jeudi, oui.
Oui, jeudi. Okay.
Et donc, c'est ça. Évidemment, le centre-ville risque d'être très intéressé par ça et probablement d'autres gens de la région aussi. Fait que est-ce que c'est encore possible d'avoir des billets? Est-ce que c'est facile d'avoir des billets pour cet événement-là?
Oui, bien, notre page Facebook, c'est Montcentro-série. Fait qu'on s'en va sur notre page. Déjà, là, on fait juste descendre un petit peu sur la page puis on peut voir l'événement qui est à venir. Mm-hmm. Et sur la page de l'événement, on peut acheter des billets. Là, on est redirigé vers la billetterie en ligne de la Maison du cinéma, tout simplement. Sinon, on peut aussi aller acheter directement les billets au comptoir en avance. Et,
OK, carrément à la Maison du cinéma, comme si on allait voir un film. Ouais, on demande tout de suite un billet. Bonne idée pour qu'il y ait des sièges de libre ou qu'ils choisissent la bonne grosseur de salle, j'imagine.
Oui, c'est ça. On incite les gens à acheter leurs billets d'avance. Puis en fait, c'est moins cher d'avance. C'est pas une grosse différence. Ouais. C'est 8$ d'avance, puis 10 et 25 après. Bon, c'est pour ça que je change un budget incitatif. Mensuel, mais quand même. Il y a un petit rabais parce qu'on aime ça. On veut savoir un petit peu combien de gens vont venir.
Oui, je comprends. Et est-ce que vous allez animer cet événement-là?
Oui, en fait, on va faire un petit mot au début, là. Il va falloir s'en jaser, là. De toute façon, on connaît tellement la
série. Pas ma guitare, mais il va y avoir de l'animation.
Ah oui, OK.
On va présenter la série, présenter les gens. Il va y avoir un petit mot aussi du président de l'Association des gens d'affaires, Alexandre Ursobise, qui est le directeur
aussi,
général.
Directeur de la Maison du cinéma.
C'est ça donne demain.
Oui, ça tombe bien. super. Moi, je voulais être certain qu'on dise justement quand ça allait se passer puis tout ça, mais j'ai pas fini avec mes questions. J'ai pas pour vous. Moi, j'ai réellement la question que je me pose depuis que je sais que vous faites ce projet-là, c'est la question suivante. Qu'est-ce que vous faites dans un contexte où il y a des commerces qui ferment à Sherbrooke pendant le tournage? Ça doit être épouvantable. Ça doit être terrible.
C'est arrivé.
Oui. C'est clairement arrivé.
C'est arrivé, on pourrait dire, à deux reprises. Hein? La capsule.
Ouais. Mm-hmm.
La capsule, on avait commencé à les faire... Il n'y avait pas eu d'entrevue avec Vicky, mais tu sais, On allait filmer là des événements. Justement, j'avais été filmé lors d'un kino show.
Oui, c'est
j'avais
vrai,
été filmé aussi lors du cinéma, Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke.
Wow.
Fait que, tu sais, c'est... Bon, on a dû retravailler un petit peu. On avait une idée. C'était pas un scénario qui était coulé dans le béton encore, mais on avait l'intention d'aller tourner plus là-bas. Finalement, on l'a pas fait. Mais qu'est-ce qui arrive quand que tu... tourne.
Le montage est fait.
Et le montage est fait, puis c'est comme, c'était quoi avec Folteyeur?
Deux jours avant d'aller
porter les épisodes, quelque chose comme ça. On voit l'article passer, puis qu'Emilia disait, tu sais, ben c'est qui fermait, et là on disait,
ça va rester dans la série.
dans les archives.
Fait qu'il n'y a pas eu d'autres cas, là, parce que je sais que le Grand-Duc a fermé aussi, il y a quand même eu pas mal de mouvements au centre-ville. Ouais. Vous n'avez pas été trop impacté, c'est ce que je comprends.
Le Grand-Duc, quelqu'un en avait parlé en entrevue, là, mais on n'avait pas passé au montage.
Tout simplement. Okay.
Ouais,
vous n'aviez pas été tourné là. Fait que
Ça
me rassure parce qu'il y a eu comme une pluie à un moment donné où tout fermait. Là. Ça a fait un peu peur. Je dirais pas tout, là, mais
pas tout.
Certains commerces ont fermé. Des commerces qui étaient quand même là depuis un certain temps. Donc, moi, je me disais, ah non, je pensais à vous autres, puis je me disais, j'espère qu'ils ne sont pas.
C'est justement. Quand c'est au début de la post-prod, c'est quasiment pire que quand t'es justement à la fin. À la fin, tu l'assumes puis tu te dis, bon, ben c'est la vie, là, tu sais.
Il est plus là, mais on le diffuse quand même.
À moins que les restaurants Louis auraient fermé, là, ça aurait été un petit peu poche parce que c'est quand même un bon segment de l'épisode sur les restaurants. Mais
On se disait aussi, cet automne, il y a eu beaucoup de travaux au centre-ville. On se disait, oh mon Dieu, une chance qu'on n'était pas là quand il y avait ces travaux-là. Là, ça aurait été un défi de plus là, pour
tant
les
au
images,
niveau du son que des images.
Là, tu peux quasiment pas éviter d'en parler aussi, tu sais, c'est comme tu le vis au moment présent où tu filmes, là, fait que t'as refait un peu ton scénario en conséquence, les gens t'en parlent en entrevue, c'est comme c'est un bon timing. Puis chose, ouais. comme on le disait tantôt un peu, c'est un bon timing, tu sais, de diffuser à la Maison du cinéma là, jeudi prochain, parce que c'est, tu sais, il y a eu toute cette vague de travaux-là aussi là, dans les dernières semaines. Tu sais, je parlais avec beaucoup de commerçants dans les dernières semaines qui disaient, tu sais, que mais il y a moins de gens qui viennent, tu sais, c'est difficile de stationner, c'est difficile de se promener là en voiture. Fait que, tu sais, c'est quand même c'est un beau moyen de parler de ces enjeux-là, je pense aussi. Là. C'est pour ça qu'on on invite les gens à arriver, tu sais, à 18h30 parce qu'il y a une discussion informelle avant. Après, on a loué une petite partie du ciboire pour aller justement.
Ça se transfère vers le ciboire après question de compression.
L'invitation elle va être lancée.
C'est pas très long. Non, on veut un peu lever le nuage, la petite grisaille qu'il y avait eu avec les travaux.
Oui, mais c'est ça. Puis c'est bien aussi parce que déjà, c'est sûr que les commerçants, ben, ça leur nuit un peu, là, les travaux, c'est certain. Il y a moins de gens qui peuvent se stationner ou c'est plus compliqué. Fait que ça, c'est certain. Je dirais que le momentum est quand même intéressant parce que bon, les gens vont peut-être retrouver espoir de récupérer leur rue du centre-ville. C'est déjà un peu mieux que c'était. Super. Et si on parlait rapidement des difficultés que vous avez eues en faisant ces tournages-là, moi, je me dis, écoute, un tournage d'une aussi grosse envergure, c'est sûr que c'est passé des affaires, là. On est gêné d'en parler, peut-être.
C'était la. Ben, je pense, tu me corrigeras si je me trompe, mais c'était la première fois qu'on faisait, les deux, un projet de cette envergure-là au niveau documentaire, au niveau filmé et tout ça. C'est sûr que, tu sais, des fois, au niveau de la planification, tu te dis, OK, ça va prendre une journée, finalement, ça va prendre une semaine.
Ouais.
Ça a été une des difficultés, là, à la fin, de savoir combien de temps ça va prendre pour finir tout ça. Mais ça, c'est le lot de bien des projets, là, tu sais, que ce soit un projet à l'écrit ou c'est souvent tout le temps plus long qu'on pense. mais c'est ça. Donc, à la fin, on a travaillé fort pour amener ça à terme. On a travaillé la nuit.
Fort, tu dis, c'est ça. C'est. Non, mais j'essayais
de penser. T'as encore des petits yeux, Jean-Sébastien.
Non, mais tu sais, tu me posais la question, puis j'étais comme, c'était quoi le défi, tu sais, puis c'était. Mais ah non, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Il y a dormir des fois des 4-5 heures parce que c'est comme un épisode qu'il faut qu'il se finisse là, puis
ouais, ben, 20 heures devant l'ordi, des heures de tomber pour les épisodes. Eux autres devaient avoir, j'imagine, c'était planifié dans leur grille, j'imagine, à une certaine date.
Eux ils voulaient recevoir tous les épisodes en même temps. C'est comme leur nouvelle politique là, de recevoir tout ça en même temps puis de les mettre en ligne tout en même temps, mais quand même, tu sais, on avait un deadline avec eux. Moi, si on prenait du retard dans un épisode, c'était plus dur à rattraper avec l'autre après. Puis à travers ça, on a d'autres projets aussi. Là. Je veux dire, les deux, on est travailleurs autonomes. Là. Les deux,
vous avez d'autres contrats.
On fait de la pige avec d'autres contrats. C'est ça. On a des vies respectives aussi, personnelles.
Puis tu sais, on voulait vraiment faire de quoi de beau avec cette série-là. Tu sais, je veux dire. On a donné de notre temps, là, si on peut dire. Là, pour ça, vraiment, beaucoup, on aurait pu tourner certains coins plus ronds là, si on aurait voulu, mais on n'a pas voulu faire ça parce qu'on voulait vraiment faire un produit à la hauteur de ce qui est le centre-ville, à la hauteur de la vision qu'on avait pour le projet. Puis je suis content de l'avoir fait, je regrette pas. C'est sûr que ça nous a surchargé à certains moments, mais on est bien content du résultat.
Mais là, vous donnez le goût d'aller voir ça, c'est sûr qu'on va y aller. Donc, on rappelle rapidement, ça sera donc présenté à la Maison du cinéma ce jeudi à 18h30. Juste pour être certain. Achetez vos billets à l'avance, vous avez un petit rabais, donc c'est le bon moment d'en profiter. Puis peut-être un petit mot de la fin, allez-vous continuer à faire des projets comme ça ensemble?
Il y a d'autres projets déjà en tête. Tu sais, de mettre un pied comme ça dans une chaîne... À une chaîne télé, ça te donne l'opportunité aussi de faire et de proposer d'autres projets avec d'autres chaînes aussi. Tu sais, ça te donne un peu une belle carte à présenter.
Ça paraît bien sur ton CV, comme on dit.
C'est ça. Fait que non, on a des projets aussi, d'autres projets, je dirais, d'aussi grande envergure là, que cette série-là. Donc, on vous dira pour la suite. Vous
verrez. Plein de surprises. On va voir. En tout cas, c'est certain qu'on va voir ça donc à la Maison de cinéma ce jeudi. La série documentaire Monsantro. Je remercie beaucoup Jean-Sébastien Dutil, merci beaucoup Jean-François Vachon.
Merci
d'avoir été avec nous.
C'est super.
Ben oui. De retour à Cinébrunch. Si vous étiez avec nous il y a quelques minutes, on parlait avec Jean-François Vachon et Jean-Sébastien Dutille qui ont créé de toutes pièces la série, la série documentaire Montcentro. C'était fort intéressant comme discussion. Là, on est dans notre programmation régulière de Cinébrunch. On va critiquer pour vous deux films. Dans quelques minutes, Mélina va nous parler du film Julix, film québécois de...
Marie-Lou Wolfe.
Oui, Marie-Lou Wolfe. Et de mon côté, justement, je vais vous parler tout de suite du film Parasite, hein, un film particulier, un film qui a gagné la Palme d'Or du Festival de Cannes en 2019, donc cette année.
Quand même.
Donc, quand même intéressant. Film, comment dire, film sud-coréen, on pourrait dire.
c'est comme ça qu'on qualifie, James?
Non, non, c'est une comédie noire, slash comédie dramatique, en tout cas, c'est un peu un style, un genre bien à lui, ça comme ça. C'est réalisé et co-scénarisé par Jun No-bong avec des acteurs coréens, donc je vais taire le nom pour ne pas avoir l'air complètement dans les patates. Mais de toute façon, ça importe peu, je pense pas qu'on connaisse énormément, là, que les auditeurs connaissent énormément les acteurs sud-coréens, et moi-même, pas du tout. Donc, je vous propose, en fait, avant de parler du film, d'écouter tout de suite la bande-annonce pour se mettre dans le bain.
Yo, 윗집 아줌마는 IP 타임.
Wi-Fi도 다 끊기고.
어, 여기 있네.
쏟아지는 Wi-Fi를 축하합니다.
그래도 그 돌멩이 때문에 부모님 얼굴도 뵙고 좋더라, 건강들 하시고.
이거 이거 없으셔도?
귀엽지? 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라, 영어.
대학생인 척하라는 거야?
너 이 좋은 실력으로 왜 미대는 맨날 떨어지냐?
아이씨, 죽을래.
서울대학교 문서 위주 학과 뭐 이런 거 없나? 나 이 기정이에 수석 입학하겠다.
Alors oui, vous avez tous bien compris.
Oui, j'ai compris
ce
qu'il y avait des sous-titres
passait.
En fait. C'est
oui,
ça?
Absolument. Okay. C'est donc en sud-coréen, en coréen, sous-titré en français. Si vous êtes allé le voir à la maison du cinéma, le film, je comprends que vous avez absolument rien compris, à moins de parler coréen. C'est l'histoire de la famille Ki-taek, donc un père, une mère, une fille et un fils. Famille assez pauvre et qui vit dans un vieux sous-sol délabré, infesté d'insectes, d'une espèce de pas de ghetto, mais disons dans un quartier plus ou moins pauvre de... je crois que c'est à Séoul, mais je suis pas convaincu. Ça, c'est comment dire, la prémisse du truc. Donc, ils sont pauvres, ils ont un salaire à peu près inexistant, ils plient des boîtes de pizza comme sideline. Un jour, l'ami du fils, qui s'appelle Ki-woo, l'ami du fils, propose à son ami, son ami lui propose, hein? C'est clair mon affaire. Oui. Donc, l'ami de Ki-woo.
Je pense qu'on
propose...
avait des sous-titres pour comprendre ce que tu dis.
Parce que je traduis de coréen.
Oui, oui, c'est ça, en même temps, c'est en live, tout ça, c'est compliqué.
Ah, c'est,
oui,
c'est fascinant. Donc, l'ami de Ki-woo, qui est le fils de la famille, propose à son ami donc de devenir tueur, pas tueur, mais tuteur d'anglais. Quel lapsus. Oh, mon texte est écrit un peu. Donc, c'est l'âge. Donc, devenir tuteur d'anglais pour une fille, une jeune femme d'une famille très aisée. Et une fois qu'il a réussi à intégrer donc, les riches, cette famille-là, toute sa famille à Ki-woo met en place une espèce de plan sordide pour infiltrer eux aussi cette famille-là en comblant tous les postes possibles au sein de la maison et délogeant par le fait même ceux qui y travaillent par des moyens assez douteux parfois.
Oh.
Donc, ça, c'est vraiment l'histoire du film ou d'une partie du film, disons ça comme ça. Pour ceux qui connaissent les bougons, on est exactement là-dedans. Donc, on est vraiment dans une famille de bougons qui sont assez croches dans leur approche, qui sont prêtes à tout pour arriver à leur fin, qui n'ont pas trop de classe, mais qui réussissent à avoir l'air correct dans leur machiavélicité. Donc, tous les moyens sont bons et les supercheries sont bonnes pour arriver à leur fin, pour gagner plus d'argent. On passe de l'usurpation au mensonge, en passant par toutes sortes de manigances et des choses même encore plus intenses que ça. C'est un film qui est assez long. Par contre, on parle quand même d'un 2h12 là, de film. Pour un film qui se voudrait peut-être léger à la base, c'est quand même beaucoup. Je dirais que le film est par contre divisé en deux parties. Tout ce que je viens de vous dire là, c'est la première partie du film. Donc, c'est ce que je viens de décrire, la montée vers l'occupation totale des lieux de la famille riche par la famille pauvre. Par la suite, la deuxième partie du film, c'est plutôt, cette fois-là, une descente parce qu'on s'y attend un peu. Je dirais rien de plus sur le concept, mais on s'attend qu'évidemment, ils réussissent à tout aller voir. À un moment donné, il faut que, faut que quelque chose se passe. Parce qu'Aristote l'a dit, il faut qu'il y ait quelque chose qui arrive pour briser tout ce beau plan.
Donc, je l'avais dit dans d'autres mots, je pense. Mais
oui, bon, en tout cas.
Dans une autre langue aussi, peut-être. Oui.
Ah, c'est vrai.
Tout à fait. Mais on s'éloigne, et vous savez, quand vous me faites m'éloigner comme ça, je fais plus long. C'est une tradition. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui se passe. C'est une descente. Il va se passer des choses, mais complètement inattendu. C'est pas du tout... cette portion-là du film n'est pas du tout du cinéma typique. Mm. On est définitivement ailleurs. Je dirais que c'est peut-être même là un peu que le style coréen entre en place, à mon avis. On quitte les bougons, on tombe dans quelque chose de beaucoup moins exportable, dans le sens de conventionnel. Quelque chose de plus unique, plus métaphorique également. On met l'accent sur la réelle signification d'un parasite, parce que c'est le titre du film. Et de la différence des classes sociales, c'est très divertissant, ce film-là. Je vous jure, franchement, c'est surprenant. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui tient ce film-là en place, mm-hmm. dans toute son entièreté, c'est la musique.
Ben c'est ça que moi, j'ai remarqué
dans
la bande-annonce déjà. Oui, la trame sonore semblait excellente. Là.
Ouais. La musique est bien utilisée de façon parcimonieuse, si bien qu'on ne l'entend pas, mais on la vit. On se fait pas nécessairement la réflexion « Ah tiens, la musique est bonne », mais la musique accompagne tellement bien l'action et l'inaction que ça rend le film vraiment, vraiment bien ficelé au niveau musical. Ça renforce beaucoup certains moments cruciaux aussi, parce qu'il faut pas oublier qu'on est dans une comédie noire à la base. Donc, on a besoin de la musique absolument pour dire si on est dans le drame ou si on est dans le sérieux.
Ouais.
Et parfois, on va avoir des événements relativement cocasses qui vont avoir une musique un peu plus dramatique et parfois l'inverse. Et on joue avec ça et c'est bien fait. C'est vraiment bien fait. Je comprends que ce film-là ait gagné la Palme d'Or. Ça ne m'étonne pas à cause de ça. Maintenant, par contre, j'ai trouvé ça un peu long. Donc, honnêtement, j'ai regardé l'heure quelques fois.
Oui.
C'est quand même 2h12. Le rythme marche en lui-même. Est-ce que c'est parce que je suis conditionné et trop habitué à un cinéma plus rythmé? Peut-être, quoique j'aime beaucoup des films qui ne sont pas du tout rythmés. La Bête lumineuse, des choses comme ça, ce n'est pas des films rythmés du tout, et je les adore. J'ai l'impression que dans ce cas-ci, c'est qu'on met beaucoup d'accent sur certains moments que j'aurais personnellement préféré plus court. Je donne quand même un 8,5 sur 10 au film.
Wow.
C'est un très bon film, mais ça, pour moi, c'est un peu trop. Maintenant, quand je suis allé voir le film, il faut savoir que le film était sorti depuis un certain temps quand même, là. Et la salle était au moins aux trois quarts pleines, ce qui est vraiment bien. Pour un film en coréen sous-titré, moi, j'ai jamais vu ça avant, même à part peut-être au festival là, du cinéma du monde. Mais sinon, j'ai jamais vu ça, autant de monde voir un film asiatique sous-titré, c'est assez rare. Clairement, les gens qui étaient là avaient écouté des critiques dans les médias, et malheureusement, ou en tout cas pourtant, je ne sais pas si c'est un systématisme ou une unicité, et visiblement j'invente des mots qui n'existent pas, mais en sortant de la salle, j'ai entendu plusieurs personnes dire qu'ils n'avaient pas aimé le film, et qu'ils étaient étonnés de ne pas l'avoir aimé, comme s'ils s'y attendaient que ça allait être
Film de l'année.
Ouais. Donc moi je pense que ça c'est vraiment un signe qu'il y a des critiques qui ont été très très... qui ont beaucoup vendu le film, ce qui est quand même bien, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la fin du film est assez trash. J'ai pas du tout parlé de la fin du film, mais on nous prépare pas à ça, pas du tout. Et à moins de connaître un peu le genre du cinéma asiatique, je dirais, mais comme asiatique, japonais, coréen, dans ce coin-là surtout, la vérité, c'est que c'est du cinéma asiatique. Et du cinéma asiatique, quand on n'est pas habitué à ce genre-là, on parle d'un jeu qui est un peu gros normalement, quoique c'est franchement assez fort au niveau des acteurs dans ce film-là. On a moins l'impression que c'est théâtral, comme ça l'est souvent dans des films japonais notamment. Mais dans ce cas-ci, film coréen, un cinéma qui réussit à être à la fois très, très explicite, très concret, où on est vraiment dans... On voit les choses, on n'est pas dans le sous-entendu, on n'est pas dans ces choses-là, et pourtant très métaphorique en même temps sur d'autres points. Et c'est habile, c'est super. Il y a des scènes où c'est très concret. Je dirais rien de détaillé, mais on voit à un moment donné quelque chose qui se passe avec une toilette et on voit quelque chose qui se passe avec une toilette ailleurs. Et ces deux éléments-là nous montrent la différence des classes sociales d'une façon habile par la caméra, par l'intrigue, par tout ça. C'est vraiment un film très intéressant à voir. Un 8,5 sur 10. Vous allez peut-être trouver ça un peu long, mais... C'est très divertissant.
Tu dirais qu'il y a un tu te dis qu'il y avait un peu deux parties dans le film, oui. Quasiment. Est-ce qu'il y a un changement de mood, entre guillemets? Est-ce que c'est plus drôle au début, puis plus dramatique vers la fin?
La première moitié du film est drôle, légère. Il y a de la tension et du suspense quand même, mais on n'est pas dans le drame du tout. Okay. La deuxième moitié du film, on tombe dans un drame, mais d'une façon tellement exagérée
que ça, peut
ça pourrait être drôle dans le sens d'humour noir peut-être, de différentes façons, mais dans les faits, scène pour scène, c'est dramatique.
Ouais.
Mais dans le contexte de l'exagération, ça peut être drôle. Donc là encore là, je pense que ce qui est le fun de ce film-là, c'est que c'est comme deux films en un. Maintenant, c'est pas tout le monde qui aime ce genre de situation-là. Moi-même, c'est assez rare que j'apprécie ce genre de choses-là où on a comme deux films en un, mais ça arrive que j'aime ça. C'est dans ce cas-ci, j'ai quand même aimé ça.
C'est le pizza Getty des films.
C'est le pizza Getty des films, exactement, okay. François.
Mais hein, écoute, j'aime bien imaginer vous aussi.
On suit dans l'histoire. Wow. Alors voilà, le film Parasite, alors sans doute disponible au cinéma dans certaines salles du Québec pour un certain temps, évidemment.
J'aimerais vraiment ça que dans la prochaine bande-annonce, ça soit marqué, qu'il me cite, puis ça soit marqué, c'est le pizza Getty des films à la fin de la bande-annonce.
Ouais, avis aux gens intéressés.
Ben moi, écoute, j'ai fait l'appel.
Pizza Getty des films.
Oui, exactement.
Peut-être sur la pochette du DVD.
Marquer le nombre d'étoiles en dessous, puis Pizza Getty des films.
Donc 8.5 sur 10, le Pizza Getty des films, dit François. Voilà, c'est tout.
Merci.
Et c'est le moment où Mélina nous parle du film québécois Joulix. C'est Joulix ou Joulix?
Joulix.
Joulix.
Joulix qui veut dire en russe voyou. Ça l'a même créé une certaine controverse entourant la sortie du film. Mais ça, je vais y revenir un peu plus tard. Donc, c'est un film qui a été réalisé par Marie-Lou Wolfe. Donc, on a connu comme actrice. On peut se souvenir de Ramdam. Hein? C'est pas mal là qu'on l'a connu dans
on
le rôle de Marianne.
On peut aussi ne pas se souvenir de Ramdam.
Bon.
C'est pas ma génération.
Ouais, moi non plus, j'ai pas
moment, je me tourne à la caméra et je dis « Bon, vont-ils me laisser terminer ma phrase?
» en soupirant.
Voilà, donc, petite blague de Ramdam. Donc, mais c'est pas sa première réalisation. Elle a réalisé en 2008 le film « Les pieds dans le vide », qui est un film avec son conjoint à l'époque, Guillaume Lemaitivière, je faisais du parachute. Et elle a réalisé aussi des séries télé. Et là, elle récidive à la réalisation de ce film-là, qui est inspiré d'une pièce de théâtre. Donc voilà.
Une pièce de théâtre, voilà.
Une pièce de théâtre, voilà.
Oui.
Donc, Joulix, en fait, je vais vous lire le résumé. Mm-hmm. Y a des gens qui vont raconter des choses et après, notre vie va devenir une espèce de drame. Mais en vrai, notre vie, c'était pas un drame. Vera et Zach, en vrai, c'était l'amour fou. C'est juste que des fois, les orages se préparent sans que t'aies fait attention. Et c'est pour ça que je l'ai pas vu venir la catastrophe. Par son récit lumineux, Yana, 7 ans, nous apprend les détails d'une vie qui se voulait à l'abri des convenances et des idées reçues. Une vie libre, s'écoulant au rythme de la pluie et des saisons, marquée par la passion dévorante de Zach et Vera, ses parents. Un regard tendre et poétique qui nous révèle une histoire par petites touches, comme se lève le voile sur un secret.
C'est très poétique, justement, comme résumé.
C'est très poétique, ce résumé-là. En fait, d'entrée de jeu, je vous dis, le film est porté et c'est raconté par une petite fille de 7 ans, par la petite fille Yana. Donc, on va l'entendre dans la bande-annonce qu'on va l'écouter bientôt. C'est elle qui fait la narration du film. L'histoire est racontée à travers ses yeux. Et ça, c'est ce qui est fantastique dans ce film-là. Donc, vous allez entendre sa voix dans la bande-annonce. Donc, allons-y.
Dans la vie, faut tenir debout toute seule. Parce que les autres, ils seront pas toujours là pour t'empêcher de tomber. Et l'amour fou, c'est quand quelqu'un te prend dans ses bras, puis tous les malheurs en dedans de toi font moins mal et crient moins fort. Il y a des choses comme ça qui te rendent trop heureuse. La vie normale, ça fait du bruit. Alors des fois, il fallait la faire taire.
Impressionnant.
Oui, donc c'était la bande-annonce du film Julix. Et donc, la voix de la jeune fille, c'est interprétée par Lilou Roy-Lanouette. C'est la première fois qu'elle interprète un rôle au cinéma. En fait, c'est la première fois qu'elle est à l'écran. Donc, elle commence avec ce film-là. Elle était âgée de 7 ans lors du tournage du film. Et ensuite, pour la distribution, bon, on a Paul Amarani, Michel Mongeau, Christiane Pasquier, Victor Andrés Treyes-Turgeon, Jeanne Roux-Côté. Donc, ça se déroule dans les années 70, pas loin d'ici, en fait, à Bury.
Ah bon?
Oui. Et donc, c'est ça, on raconte l'histoire, en fait. Ben, cette petite fille-là nous raconte l'histoire de ses parents, l'histoire d'amour de ses parents. Son père, qui est un rom, donc un gitan. Et ça, ça l'a créé. C'est de là la certaine controverse qu'on va parler un peu plus tard. Et sa mère, qui vient d'une famille traditionnelle, ils se rencontrent, tombent en amour et vivent ce mode de vie-là un peu libre et tout ça. Et donc, on a une petite fille qui est très libre, qui fait un peu... qui découvre la vie à sa façon et qui découvre aussi, qui voit l'amour de ses parents. C'est super bien fait comme film. Et ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est qu'on commence aussi le film en révélant le punch. Et ensuite, tout le restant du film est une construction jusqu'à ce moment-là. Donc, on pourrait dire...
Intéressant, ça aussi.
Ça, c'est très intéressant. Mais quand le punch arrive, du moins même si on sait ce qui s'en vient, il y a quelque chose de fantastique qui se passe à l'intérieur de nous, dans le sens que c'est très dramatique, pas fantastique, joyeux, mais fantastique, dramatique. Et ça provoque toutes sortes d'émotions. La salle était renversée, même les gens à côté de moi me parlaient du film après le film. Et ça, généralement, quand tu...
C'est très bon signe, ça.
Oui, parce que c'est signe que ça l'a touché, qu'il y a quelque chose à dire. Mais moi, c'est une des choses que j'ai adoré dans le film. La réalisation est vraiment impeccable parce que cette petite fille-là, oui, Marie-Lou Wolfe, j'ai lu l'entrevue, elle dit oui, elle avait déjà ce que je recherchais. Elle a déjà de ce personnage-là en elle.
Ouais,
naturellement.
Oui.
Mais on va se le dire quand même, je pense qu'il y a un gros travail de réalisation pour pouvoir amener à l'écran cette vérité-là que Marie-Lou Wolfe voyait chez l'enfant. Donc, des techniques de réalisation, exactement, qui est assez phénoménale. L'interprétation de la jeune fille est vraiment impeccable. On sent pas que c'est joué, on sent que c'est naturel. Ça me rappelle un peu le film qu'on avait vu il y a un an et demi, Jim, sur la crise d'octobre, où il y avait le petit garçon de 6 ans qui sont allés chercher dans Hochelaga Maisonneuve. Pour ramener pour que le personnage soit crédible.
Oui, c'est ça.
Et c'est ce qu'on a fait aussi dans ce film-là. Et ça fonctionne. C'est fantastique. C'est merveilleux. C'est très triste. Et,
c'est très Dardenne, je trouve.
Oui.
Oui.
Ben, je pense que oui. Les dialogues sont intéressants. L'opposition entre les personnages, entre les milieux, sont super intéressants. Et c'est là que je m'en viens à ma petite controverse qu'il y a eu. C'est-à-dire que, comme le père vient d'une famille de Roms, de gitans, la scénariste et la réalisatrice sont allées rencontrer des gens pour leur présenter le scénario, en fait, pour présenter le film. Ils ont discuté un peu, mais ils n'ont pas réussi à avoir d'entente au niveau de comment cette population-là va être représentée à l'écran. Donc, on a décidé, au niveau de la réalisation, de ne pas nommer ce peuple-là directement. On ne dit jamais que ce sont des gitans, mais on les voit, donc on le devine. Mais on ne va pas là-dedans. Il y a vraiment une petite controverse autour de ça. Mais peu importe la controverse, moi, je vous dirais définitivement que c'est un film à voir. C'est un film qui est chamboulant quand même d'une certaine façon, qui est renversant, mais qui est somme toute vraiment des interprétations, des... Ah, je sais même pas... Je veux pas en parler plus parce que je voudrais pas courir le... Oui, exactement, tu veux gâcher un peu ce qui se passe dans le film. Mais ça vaut vraiment la peine. Je pense que c'est définitivement un film à voir. Je pense que le travail de réalisation derrière ce film-là est phénoménal. Je pense que le travail des acteurs dans ce film-là aussi est phénoménal. Vraiment... C'est beau. C'est beau visuellement à voir aussi. On va chercher beaucoup d'émotions aussi. Il y a une espèce de tension qu'on réussit à construire, même si on sait le punch du film. Donc ça, c'est vraiment phénoménal. Donc moi, définitivement, ce film-là, je lui donne un 9 sur 10. Je le recommande fortement aux gens. C'est un film qui va définitivement... Vous ne pourrez pas rester insensible à ce film-là. J'aimerais ça en parler plus, en fait. Je me cherche quelqu'un avec qui en parler, quelqu'un qui a vu le film.
En tout cas, moi, ça me donne envie d'aller le voir. Je ne sais pas si je vais avoir le temps les prochains jours, mais s'il est encore disponible. Mais et c'est spécial parce qu'il y a comme deux gros films québécois qui sortent presque en même temps.
Oui, on a Antigone
qu'on va parler la semaine prochaine, dont on va parler. Sinon, moi, j'aimerais juste revenir un peu sur l'aspect de la controverse. Mm-hmm. J'ai pas tout suivi là, sur le sujet. Je sais que, bon, on lui a reproché de ne pas mentionner, de ne pas...
C'est ça. On mentionne pas. Ça, c'est suite à une décision, en fait, qu'elle a prise quand elle a réalisé qu'il n'y avait pas vraiment... Il n'y arrivait pas vraiment à une entente avec les représentants, un certain organisme qui représente peut-être les Roms ou comment on les perçoit, tout ça. Mm. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas en parler. Et ça aussi est lié au fait que le titre Joulix, en russe, ça veut dire voyou. Donc, déjà à la base, je crois qu'ils étaient choqués parce qu'ils se font représenter un peu comme étant des voyous, si on veut, à l'écran. Donc là, on laisse un peu un flou autour de ça. Je pense que c'est une bonne décision qui a été prise. On l'a vu dans les dernières années.
De ne pas nommer.
Oui, parce que, c'est ça, on l'a vu dans les dernières années. Il y a beaucoup de controverses au niveau de l'appropriation culturelle.
C'est quand on nomme, mais là, c'est l'inverse. On n'a pas nommé et on a quand même une controverse. C'est ce que j'essaie de comprendre.
Mais en même temps, ça vient d'une pièce de théâtre, si j'ai bien suivi.
Oui, exactement.
Donc, la pièce de théâtre, est-ce qu'il y a eu une controverse quand c'est sorti?
Peut-être pas. Je n'ai pas suivi là-dessus. Okay. Mais il y a eu un...
Parce que des fois, c'est un peu étrange aussi. Des fois, qu'est-ce qui sème la controverse? Mm-hmm. Des fois, il y a des affaires qui devraient avoir une controverse, puis pour X nombre de raisons...
Il y a juste personne qui en parle.
C'est ça, il y a juste personne à ce moment-là, au niveau du timing, au niveau de ce qui s'est passé dans les médias à ce moment-là, ou peu importe.
Peut-être qu'ils n'avaient pas été consultés dans ce cas-ci. Ils ont été consultés et peut-être qu'ils ont senti que leur avis non plus n'a pas été pris en compte. Donc peut-être que là aussi, il y a une réaction aussi plus forte parce qu'il y a eu tentative de consultation. Finalement, ça semble-t-il que ça ne l'a pas... les changements qu'ils demandaient n'étaient pas vraiment possibles. Maintenant, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les dernières années. C'est pas la première fois qu'on en parle à Cinébrunch. Ça arrive qu'il y a des controverses qui entourent le film. Et j'ai beaucoup aimé la réponse de Marie-Lou Wolfe justement à ça. Elle a dit « Écoutez, moi, j'amène ce sujet-là sur la place publique. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec la façon dont je représente les Roms à l'écran, prenez le micro, allez-y, dites ce que vous avez à dire. Servez-vous de cette plateforme-là. » Et je pense qu'à un moment donné aussi, c'est ça. À un moment donné, moi, du moins, je pense que ça aurait été vraiment dommage de changer ce film-là parce qu'il y a quelque chose de très fort entre l'opposition, entre deux cultures qui se rencontrent. Je dis culture, mais je dirais plutôt mode de vie, entre deux modes de vie qui s'affrontent, qui se rencontrent. Ça rend ça super intéressant et c'est une richesse qu'on a. Et c'est ça un peu que je trouve dommage parce que il y a une richesse dans la culture, dans l'échange de culture. Il y a des situations qui naissent de ça, qui donnent de la matière vraiment pour aller toucher des gens un peu partout. Donc, je pense que c'est une bonne chose qu'on ait fait ce film-là, finalement.
Eh bien, super. Moi, je suis content de ton compte-rendu. C'est fort intéressant. Puis, ça donne envie d'aller voir le film, qu'on soit ou pas d'accord avec le dilemme en place.
Oui, allez-y.
Faites votre propre opinion. Je pense que c'est la seule chose à faire. Puis, qu'on soit ou non d'accord avec ça, je pense qu'il faut aussi critiquer un film pour un film, au-delà de l'impact social du film.
C'est ça. Ouais, mais donc, allez-y définitivement pour les performances des acteurs, pour la véracité qu'on a dans ce qu'on voit dans le temps. Tout ça transperce l'écran, puis je sais pas, ce film-là est venu me chercher vraiment à un autre niveau, là, comme ça faisait quelques temps qu'un film n'était pas venu me chercher.
Eh bien, merci beaucoup, Mélina.
Merci.
Et il nous reste quelques minutes, c'est le moment de peut-être vous parler de nos petites nouvelles qu'on n'a pas fait en début d'émission.
Oui, tout à fait.
Moi, je peux y aller avec la mienne en premier, mais en même temps, je viens de parler, donc peut-être que vous êtes tanné de...
Ben, je sais pas. Franchement, qu'est-ce que tu avais comme nouvelle, toi?
Eh, mon doux, écoute, Disney Plus
est arrivé cette semaine.
Est arrivé au Canada cette semaine, tout à fait. Mardi est arrivé.
Puis ça s'est bien passé?
Dans le fond, c'est sorti, mais il y a eu des petits problèmes, des petits problèmes techniques, évidemment, mais il fallait s'y s'y attendre quand même à ça. Il y a eu quand même supposément beaucoup de personnes qui l'ont utilisé, donc il y a des gens qui faisaient un peu la file quasiment, comme si on attendait l'ouverture de magasin. Là,
mais ils étaient devant leur ordinateur
en train d'actualiser la page. Il y a eu des gens qui ont eu de la difficulté à s'inscrire, il y a eu des gens qui ont eu de la difficulté à faire jouer le contenu, etc., etc. Bon, il y a eu plusieurs problèmes. Il va falloir voir si ces problèmes-là persistent dans les semaines et les mois à venir. Si
ça doit être une espèce de version bêta, j'imagine. Là, ça doit être
Ben, c'est ça. Ils n'ont pas eu l'air vraiment de la façon qu'ils l'ont vendu à dire c'est une version bêta. C'est juste genre c'est là. Puis il y a des gros films qui étaient censés être là, comme par exemple la reprise de La Belle et le Clocheur en live action, qui ont juste droppé là. Sa plateforme en disant ben c'est maintenant disponible sa plateforme, tu sais, puis
il y avait un petit problème au niveau de la gestion là, du calendrier
en même temps c'est ça aussi ça nous fait voir que dans le fond peut-être que la prochaine façon de faire la publicité pour nos films vont peut-être changer dans le sens où est-ce que maintenant ils vont juste dire ben un mardi matin, pof, le contenu va être rendu disponible, puis il n'y aura pas tant plus de publicité rendue là, puis le bouche-à-oreille va faire la suite, tu sais. Peut-être qu'on est rendu là,
on est rendu là.
On va voir.
Donc, c'est intéressant de voir ça. Ils ont décidé aussi de faire des lancements de séries épisode par épisode, du moins pour l'instant, ils semblent faire ça. Donc, est-ce que ça va continuer? Il y en a qui ont décidé de... Tu sais, des Netflix, je pense, qui... bon, en même temps, je parle un peu à travers mon chapeau, mais qui mettent tout ça en même temps. Donc, intéressant de voir comment tout ça va se développer.
Ben, on va suivre tout ça. Mina, rapidement, en une minute.
Oui, ben, je vous en parlerai certainement la semaine prochaine, mais je voulais juste vous dire que la Maison du cinéma, comme dans les dernières années, a annoncé sa grande guignolée à elle. Donc, c'est-à-dire qu'en échange de denrées non périssables, vous pourrez assister à deux projections. Ça se passe le dimanche, le 24 novembre à 10h. Et les films présentés... Angry Birds 2, le film, et Abominable, version française dans les deux cas. Donc, c'est pour une bonne cause. Allez-y.
Ben oui, pourquoi pas, amenez vos denrées, puis en même temps, c'est le bon moment d'aller voir un film en famille. Arrivez d'avance, parce que l'année passée, je me souviens, il y avait une file, si vous savez où la Maison du cinéma, la file se rendait plus loin que le chemin de fer. Donc, je vous recommande fortement d'arriver de bonne heure, parce que c'est pas parce que c'est gratuit que vous allez pas attendre.
Non, mais faisons de cet événement un succès.
Ben voilà, exactement. Merci Mélina, merci François. Hein,
merci
c'est déjà
à toi,
ben oui.
Jim.
Ben oui, c'est ça. Moi, je garde ma nouvelle pour la semaine prochaine. Je suis comme ça. Parce que je sens qu'il va se passer des choses de toute façon dans ce dossier-là. Donc voilà, c'est tout pour Cinébrunch. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, samedi 11h, en rediffusion le mardi à midi ou toujours sur notre site web cinébrunch.com ou en balado sur votre téléphone intelligent. Merci à tous. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Bonne semaine.